Il y a un petit fruit qui est chez nous, qu'on mange, ça ressemble un peu à des noix de palme. Et en fait, quand on prend ces graines-là, on les fait sécher et on les écrase, ça nous donne du poivre en fait. Mais ça parfume vraiment tout votre aliment et c'est extraordinaire.
Les deux plats emblématiques pour moi de la cuisine africaine, c'est d'abord le yassa et le mafé.
C'est très important de manger avec les mains chez nous, parce que justement, en Afrique, selon moi, la cuisine est sacrée.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue à tous. Le feu sous la marmite, de la couleur partout dans notre case, notre maison, votre maison sur RFI, dans le goût du monde. Aujourd'hui, destination l'Afrique, on plonge le nez dans les souvenirs, on découvre sous la couverture wax de votre livre, Goût d'Afrique, simplement, sobrement, goût au pluriel évidemment. Bonjour, chef en tokokaïn. Vous êtes cuisinière, traiteur, organisatrice du festival We Eat Africa. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui une amie, car vous nous nourrissez au propre et au figuré, bien souvent, dans le goût du monde. Et vous n'êtes pas seul aujourd'hui, car cette histoire que nous allons raconter est pensée et écrite à deux. Bonjour Aline Princet.
Bonjour.
Vous êtes photographe, africaine de cœur, je crois, vous allez nous raconter pourquoi, et auteur donc, toutes les deux, de ce très beau livre, Goût d'Afrique, avec, je l'ai dit, une couverture avec un imprimé en wax. On est dans quelque chose d'aujourd'hui, de totalement urbain et contemporain, et ça fait terriblement du bien. Alors je préfère vous prévenir, vous, chers auditeurs du goût du monde, plongez dans ce livre-là et vous n'aurez qu'une envie, c'est très très simple, c'est de filer au marché, d'allumer le feu et de cuisiner, de découvrir, et ça, c'est tant mieux. Alors ce livre, toutes les deux, d'où est venue l'idée de faire un livre comme celui-ci? Aline Princet peut-être?
Alors oui, moi je suis donc photographe culinaire et je suis amenée à illustrer beaucoup de livres, et notamment des livres sur la cuisine du monde. Et j'ai eu une proposition d'une maison d'édition avec qui je travaille, qui m'a proposé de donner des idées, parce que beaucoup de choses ont été faites dans l'édition culinaire. Et il semblait évident qu'il y avait quand même une grande absente, un grand vide. Et la très très discrète restait la cuisine noire africaine, parce que la cuisine nord-africaine, elle est plutôt bien représentée, mais la cuisine noire africaine, mais pourquoi ce grand vide? Et moi, j'avais cette position de... Mais voilà, j'ai des intervenants, je pouvais être le trait d'union.
Avec... Une sensibilité aussi, quand même, on peut dire.
Oui, oui, une forte sensibilité. Très, très forte.
Alors, d'où vous vient cette sensibilité? Parce qu'après, il y aura la sensibilité d'Anto, bien sûr, mais d'où vous vient cette sensibilité?
Après, par ma vie personnelle, mon fils est franco-béninois. Donc, je me suis mariée avec un béninois sur les plages du Bénin. Donc, j'ai partagé énormément de repas de cette cuisine et je me suis régalée. Et pourquoi on n'en parle pas plus, quoi? C'est ça?
Ça semble incompréhensible.
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'on va dans tous les restaurants du monde et pas des restaurants africains manger un bon yassa ou un bon tiep si on veut être dans les plats les plus connus?
Il n'y a pas que ça, quand même.
Il n'y a pas que ça. Et c'est justement, vous avez raison de vous insurger, Anto, parce que justement, dans votre livre, non seulement il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, des épices, plein de découvertes qu'on peut faire tout au fil de ces pages. Et c'est simple, on n'a qu'à regarder, on a juste envie de cuisiner, mais vraiment et très honnêtement. Moi qui ne suis pas du tout une pro de la cuisine, je vous l'avoue ici aujourd'hui, on a envie et on se dit c'est possible. Anto, en fait, c'est la rencontre entre deux envies, c'est un peu ça, parce que vous, ça fait longtemps que vous vouliez justement poser par écrit des recettes d'Afrique.
Oui, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire un livre de cuisine, mais je ne savais pas comment, sachant que je ne voulais pas faire un livre pour faire un livre ou pour prouver quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, quand on est un peu dans la communauté, on veut prouver qu'on sait aussi faire des choses. Et je me disais que si je fais un livre, je veux que ça soit un beau livre, parce que beaucoup se mettent en autoproduction, donc ça peut être une bonne chose, mais il y a énormément de travail derrière. Et vu déjà le travail que j'avais, je n'avais pas envie de me mettre en autoproduction. Donc pour moi, c'était d'attendre l'opportunité qui se présente pour pouvoir, ou la rencontre qui devait se présenter pour pouvoir faire un livre un jour. Et mon acolyte Cossy me disait, mais t'inquiète, un jour ça viendra, un jour ça viendra. Et puis un jour, je reçois ce mail d'Aline qui m'explique qu'elle est photographe culinaire et qu'elle aimerait faire des photographies d'un livre de cuisine d'Afrique noire. Et si je serais partante pour le projet? Et moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bah oui, tout de suite. Donc, on s'est rencontrés, on a beaucoup échangé. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'idée de faire des photoportraits de certaines personnalités où chacune utiliserait un ingrédient de la cuisine africaine, mais de façon détournée. C'était amusant, en plus, de faire ça. Et c'est comme ça, en fait, que la rencontre s'est faite et qu'on a commencé à travailler. Donc, il a fallu faire différentes propositions de recettes. Ce qu'on souhaitait, ce n'était pas être centré sur l'Afrique centrale ou que de l'Afrique de l'Ouest, et vraiment toucher un peu partout, toute l'Afrique, et que tout le monde puisse se reconnaître dans ce livre-là, parce qu'on voulait un livre qui rassemble aussi.
On est dans une vraie démarche de transmission aussi, mais ça, on va en parler tout au long de l'émission, les différents noms, les différentes épices, la manière de cuisiner. Et c'est rigolo, parce que dès le début, vous le dites, on a peu de traces, en fait, de la cuisine d'avant la colonisation, d'avant les colonisations. Donc, c'est toute une redécouverte aussi, et tout ce patrimoine qui a disparu, donc il est de notre responsabilité aussi de le faire ressurgir, de le faire revivre, et de ne pas l'oublier. Un livre, ça permet ça. Et justement, ça n'a pas permis avant parce que la transmission, généralement, est orale. Alors, comment est-ce qu'on fait, justement, pour passer de l'oralité à l'écrit? Comment on fait?
Comment on fait? Déjà, il faut soi-même se renseigner. Moi, c'est ce que je... En tout cas, depuis quelques années, c'est aller poser des questions. Et ce qui m'a aussi aidée, c'est le fait d'avoir une émission de télé où je vais dans les villages pour demander aux mamans, aux villageois, quels produits, comment ils l'utilisent, pourquoi ils utilisent ce produit et pas un autre, les qualités nutritives, comment ils l'utilisent en médecine traditionnelle. Ça, c'était aussi intéressant de pouvoir noter tout ça et de voir qu'au final, souvent, on partageait, en fait, des fois, les mêmes recettes, les mêmes utilisations, mais qu'on ne sait pas que le voisin fait la même chose, en fait, parce que les recettes ont voyagé. Et puis, il faut savoir qu'avant la colonisation, l'Afrique, c'était des empires, c'était des royaumes. Et quand des pays sont découpés, il y a des royaumes qui sont divisés, il y a des familles qui sont séparées. Et on se demande pourquoi le mafé, on le retrouve pas seulement qu'au Sénégal, mais on le retrouve en Mauritanie, on le retrouve en Gambie, on le retrouve au Mali. Quand vous allez même en Afrique centrale, on a aussi la sauce arachide. Vous allez jusqu'à Madagascar, vous avez la sauce arachide là-bas. Donc, c'est que nos recettes ont voyagé depuis et que c'était à nous aussi de faire cette démarche, de pouvoir découvrir en fait nos produits.
Je souris parce que la sauce arachide, c'est un peu un des incontournables quand même.
Ah oui.
Alors, et d'ailleurs, vous listez au début, vous avez une sorte de découpage de l'Afrique, évidemment géographique, parce que les goûts divers, les impératifs, on va davantage manger de poissons à l'est ou au sud qu'en Afrique centrale, évidemment. Et vous notez des incontournables que vous devez avoir dans le placard. Alors ça, cette liste-là, elle ne doit pas forcément être évidente non plus.
Non, elle est pas évidente cette liste-là parce que mais il y a quand même la base. Il y a quand même la base parce que il y a un ingrédient qu'on retrouve quasiment dans toutes les recettes salées, c'est ce qu'on appelle le nokos qui est cette pâte de condiment.
Ah, le nokos.
Ah ouais.
Alors nokos, le nom nokos ça vient c'est au Sénégal qu'on dit nokos, mais il faut savoir que dans toute l'Afrique, on fait la pâte de condiment. Chacun après a son nom. Quand je suis allée au Togo, ils font cette pâte de condiment. Au Gabon, nous-mêmes, on l'a fait avant de cuisiner, où on a des oignons, de l'ail, du gingembre, un peu de piment, après l'épice qu'on a sous la main. Et pour moi, ce nokos, en plus, c'est un moyen de pouvoir se passer du bouillon cube qui est très utilisé.
C'est ça, le nokos peut tout à fait... On n'a pas besoin de bouillon si on a un bon nokos.
Sachant que dans le livre, ce que j'ai proposé, c'est de parfumer son nokos, enfin, donner un parfum pour différentes utilisations. C'est-à-dire... De la même façon qu'on a un bouillon qu'on a souvent aux crevettes ou poissons fumés, ben on peut faire son nokos avec la poudre de poissons fumés ou des crevettes séchées. Là, on fait un nokos qui est un peu plus relevé ou avec des épices fumées ou grillées qui vont aider à faire les viandes. Enfin, on peut le décliner. Après, c'est aussi à soi-même d'avoir cette démarche-là.
De se lancer un petit peu, bien sûr, d'improviser. Vous
bien
connaissiez
sûr.
Aline Princé, vous cuisinez des plats africains depuis que vous avez rencontré votre mari.
Je les mange plus que je les cuisine.
Du coup, vous avez découvert en travaillant avec Anto, en travaillant aussi avec la styliste, vous avez découvert de nouvelles épices peut-être, de nouvelles façons,
ah,
de nouveaux
oui,
plats.
Complètement. L'histoire du nokos, moi j'ai noté le côté pratique justement pour éviter à tout prix ces bouillons cubes magie. Alors là, c'est bien d'insister là-dessus quand même.
Les bouillons industriels,
j'ai répété. Ah ouais, vraiment. Et le côté pratique, c'est qu'on peut les mettre dans des compartiments glaçons et les utiliser comme des cubes qu'on sort au fur et à mesure.
Et si on n'a pas de congélateur, ce n'est pas grave parce qu'on peut mettre de l'huile.
On peut mettre de l'huile qui empêche en fait que ça pourrisse.
Et donc ça permet de le conserver un petit peu. Il y a aussi une recette de torolo.
C'est la pâte
hyper
de piment.
Forte. C'est la plus forte d'ailleurs.
C'est la plus forte. C'est le piment tel que le condiment. C'est souvent le piment qu'on pose sur la table avec le sel, le poivre, la moutarde que chacun met dans son assiette son niveau de tolérance.
Voilà, c'est ça.
Moi, dans ma langue maternelle, on appelle ça un torolo. Donc, chacun après a son nom. Mais j'ai voulu garder aussi quelques noms gabonais pour que certains ne me disent pas « Oui, mais tu n'as mis que des noms des autres, mais des noms à nous.
» Oui, à chaque fois, il y a une bonne traduction, en tout cas, pour la graine d'olum, notamment.
La graine d'olum, qui est appelée rondelle au Cameroun, au Gabon, on dit sinzakolo. Et même suivant les différentes ethnies, il y a un nom différent, d'autres appellent Moufira. Et qui est, alors il y a la graine et il y a aussi l'écorce de l'arbre qui ont cette odeur un peu aillée, même un peu de truffe, et qui est très intéressante dans tout ce qui est bouillon, dans la préparation des feuilles de manioc. Et c'est une graine qu'on retrouve beaucoup là où il y a la forêt. Ça veut dire qu'on la retrouve beaucoup en Afrique centrale et un peu dans les pays comme le Nigeria, le Ghana, qui sont un peu proches de l'Afrique centrale et qui est utilisée dans toutes nos cuisines.
Et le soumbala.
Soumbala, qu'on appelle aussi netetou au Sénégal, moutarde au Togo, Bénin, soumbala, je crois que c'est Burkina, Côte d'Ivoire. En fait, c'est la graine de néré qui est fermentée. Et après, suivant les pays, certains la font broyer, sécher, donc on l'a en poudre. D'autres la font en pâte, comme au Togo et au Bénin. D'autres la font fraîche et on la pile. Ça, c'est ce que j'ai vu dans certains villages du Sénégal. Donc, mais qui, lorsqu'elle est cuite, elle a un goût de parmesan.
Absolument, c'est ce que nous avait dit le chef mauritanien Youssouf Sorna, en disant qu'il servait comme ça des risottos
vegan,
parce que c'est de la graine de néré qui est utilisée, donc aucune trace de lactose, de laitage ou de quoi que ce soit dans son risotto. Le but de ce livre,
C'est de mettre en lumière, enfin, sous les gros projecteurs, la cuisine noire africaine et l'Afrique, j'allais dire, plus large, l'Afrique qui gagne, l'Afrique créatrice, parce qu'il n'y a pas que des plats traditionnels. C'est ça qui m'intéressait aussi dans le profil de Chef Anto, c'est que tout en étant créative, mais elle s'est restée aussi ancrée dans ses racines. Donc il y a des recettes traditionnelles, mais il y a aussi des créations qui sont super intéressantes.
En tout cas, moi, le but, c'est le partage. Donc partager avec d'autres, à ceux qui ont encore peur de nous, de nos cuisines et qui se disent qu'est-ce qu'ils mangent. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle quand Aline m'a dit elle est photographe, j'ai dit enfin on va avoir un livre avec des jolies photos. Ouais. Parce que c'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est que visuellement, ça donne pas envie. Et le métier de photographe culinaire est vraiment un métier à part. Ce n'est pas parce que vous êtes photographe que vous êtes photographe culinaire. Nous, on l'a vu avec Afro Cooking, on a eu du mal à trouver vraiment quelqu'un qui fasse des jolies photos pour donner envie aux gens d'acheter le magazine. Et donc, visuellement, il fallait donner envie. Que quelqu'un, quand il ouvre le livre, comme tu disais au départ, qu'on ait envie d'aller faire son marché et de cuisiner parce que visuellement, c'est beau. Et puis dépopulariser aussi nos cuisines, de la même façon que quelqu'un dirait je vais me faire un plat indien ou un plat chinois, enfin je veux dire tout le monde sait faire des nems aujourd'hui, que ça soit le cas pour tout le monde de pouvoir se dire là on va faire
un petit aloco,
un petit poulet DG et voilà, décomplexer un peu nos cuisines pour que tout le monde puisse y mettre.
Changer de regard un petit peu.
Oui, changer de regard. Oui.
Avoir une cuisine et un regard sur l'Afrique qui est un regard un peu plus léger, un peu plus décomplexé, positif.
Oui, et puis il y a une démarche pédagogique, ce qu'on a, en tout cas la maison d'édition nous a demandé vraiment d'expliquer, parce que il y avait des choses qui pour moi étaient évidentes, mais parce que des fois je me disais mais pourquoi il me pose cette question, c'est évident.
Quelle
mais
question en fait, par exemple.
Mais par exemple pourquoi il y a pas le ndolé dans la liste.
Le ndolé, donc ça c'est un peu le plat emblématique du Cameroun.
Oui, c'est le plat emblématique du Cameroun et c'est pas facile à faire.
C'est long,
c'est pas facile et il faut une recette dans un livre n'est pas suffisante en tout cas pour ce qui concerne le ndolé pour pouvoir le réaliser. C'est ce que moi j'ai appris, ma petite sœur a épousé un Camerounais, donc j'ai appris avec la maman de mon beau-frère, et quand elle m'a montré comment laver les feuilles, comment je disais, mais on fait tout ça pour le ndolé. Et en plus, elle m'expliquait avec les termes de l'Afrique. Par exemple, quand elle broie les arachides et qu'elle les cuit, je dis, à quel moment c'est que c'est bon? Elle me dit, l'odeur. Mais c'est pas des termes que je peux mettre dans un livre, dans une recette, dire à l'odeur, parce que Donc, moi, j'ai mis aussi des recettes que je savais faire, que j'avais testées plusieurs fois, que je savais que quelqu'un, avec tous les détails que j'ai mis, normalement, n'importe qui pourrait réussir à le faire. Mais le ndolé, vu que je l'avais fait avec une maman et que je n'avais pas encore réussi, moi, à vraiment trouver les termes qu'il faut pour que quelqu'un qui n'a jamais fait ce plat-là puisse le réaliser, je me suis dit, il vaut mieux pas le mettre.
Qui peut être surpris aussi, pour la, ne serait-ce que par la difficulté aussi de trouver les bons ingrédients, et qui peut être surpris par l'amertume des feuilles, et qui sera peut-être du coup rebuté, et qui se dira, bon ben, tant pis.
Oui, bien sûr. Et le but de le livre, c'est quand même que les gens puissent faire les recettes et les encourager, pas de les décourager.
Et d'ailleurs, il y a dans votre goût d'Afrique des entrées et des desserts. Alors, ce qui, on est d'accord, n'est pas du tout dans les habitudes autour de la table africaine. Normalement, il n'y a pas trop d'entrées, pas trop de desserts. Alors, pourquoi ces entrées et ces desserts?
Alors, c'est vrai que dans la culture, on entre direct. Il n'y a pas d'entrée après de... c'est, voilà, on mange direct. C'est souvent un plat principal même. Mais là, il fallait, vu le public qu'on voulait toucher, fallait aussi s'adapter à ce que ce public la connaît. Donc, réfléchir dans ce qu'on a traditionnellement, qu'est-ce qui pouvait servir d'entrée. C'est la raison pour laquelle il y a, par exemple, je parle de la soupe de taro, qui est un plat du soir que ma grand-mère faisait souvent. Les soirs, pendant les vacances, quand il faisait froid, c'était la soupe de taro. Et c'est quelque chose qu'on peut, en plus petite quantité, proposer en entrée chaude, par
Mais
exemple.
C'est ça, comme les beignets de coquilles qui peuvent être aussi soit quelque chose qu'on mange dans la rue, soit en entrée, soit en accompagnement d'un
soit
plat.
Soit en apéritif, voilà, ou même ceux qui veulent faire une soirée tapas, voilà, c'est des choses qu'on peut consommer à ces moments-là.
On décloisonne. Alors, Soro Solo est journaliste ivoirien, bouillonnant, découvreur de talent, conteur et homme de radio. Je crois que c'est l'une des premières personnalités que vous avez approchées, Aline Princelle,
pour
lui parler donc de Goût d'Afrique et du projet de ce livre. Parce que donc, vous avez réalisé une série de portraits de gens de racines africaines, on va dire qui mangent, des mangeurs, mais pas forcément des cuisiniers.
Ce que je trouve intéressant, c'est que chaque personnalité parle de son amour de la cuisine et de comment cette cuisine peut les renvoyer direct chez eux, alors qu'ils sont ici. Donc, c'est des personnalités de la diaspora qui vivent ici, en Europe. Il y avait quatre questions qui revenaient en permanence. Quel est votre plat favori, le produit phare? Et à quel souvenir ça vous renvoie, comme une Madeleine de Proust, hein, j'emploie ce terme-là, parce que c'est assez
évocateur.
Hein. Mm-hmm. Et tout de suite, bah, effectivement, c'est quelque chose qui peut vous ramener instantanément au pays.
Ah oui.
Et alors donc, Soro Solo, on l'a appelé, puisque c'est quand même un confrère. Donc on l'a appelé, puis on lui a dit, alors Soro, quand on t'a proposé de participer à ce livre, qu'en as-tu pensé? Ben alors forcément, il m'a dit qu'il était surpris, heureux, honoré de pouvoir partager un petit peu ceci, et notamment le changement de regard sur l'Afrique. Je vous propose de l'écouter.
Comme je ne suis pas un vrai chef et que la cuisine m'intéresse, c'est l'occasion de parler d'une recette de mon pays, de mon village, le nord de la Côte d'Ivoire. La recette que j'ai proposée, ça a été ce que nous appelons à Korogo, c'est la ville où je suis né, donc le chef de département du nord de la Côte d'Ivoire, c'est la sauce pistache, qui est traditionnellement une sauce qui accompagne des céréales comme le riz, comme la pâte de taux, mais surtout comme la pâte de foutou, igname. C'est une recette plutôt réservée aux invités d'honneur, aux notables. Et la graine de pistache, c'est une graine oléagineuse, qu'on grille, qu'on écrase, on obtient une pâte, et c'est cette pâte-là qu'on va diluer dans tous les légumes qu'on a fait revenir, oignons, tomates, épicées, au poivre, et puis on laisse mijoter, et ensuite on fait revenir la viande, qu'on remet là-dedans, et on laisse tout le tout mijoter. Quand on voit une fine couche d'huile se mettre à la surface de la sauce, ça veut dire qu'elle est prête à être mangée.
Et là, normalement, même en parlant deux minutes, vous avez déjà faim, on est d'accord?
Dès que j'en parle, ça me met en fait de l'eau à la bouche.
Il y a un moment, je vous ai interviewé un jour dans Sol Majeur et vous m'avez dit, avec l'Afrique enchantée, on a contribué à changer le regard que l'on porte sur l'Afrique ici. Est-ce que ce livre, c'est un peu dans la même démarche?
Pour moi, le livre Goût d'Afrique d'Alain Princey et de Chef Anto, ça participe vraiment à la démarche que nous avons eue, Vladimir Cagnolari et moi, en proposant l'Afrique enchantée pour donner à entendre, pour ne pas dire voir, entendre parler de l'Afrique autrement. Et ce livre apporte une grande, grande contribution à réduire le fossé, le déficit de l'art culinaire africain. en France en particulier et en Europe en général. Il apporte non seulement une diversité de recettes pas connues ici, parce que les plats les plus courants en France, ce sont les plats issus de l'immigration. Et la grosse immigration, elle est plutôt malienne et sénégalaise. On connaît globalement le tiep sénégalais ou le yassa sénégalais. On connaît la sauce mafé à base de pâtes arachides maliennes. On connaît l'attiéké ivoirien. Mais il y a quand même une diversité de recettes qui sont proposées, qui sont facilement exécutables par n'importe quel amateur de cuisine. En plus, tous les renseignements qui sont donnés là-dedans, les ingrédients, les épices, ça apporte vraiment une grande variété de ce que l'Afrique possède comme ingrédients en art culinaire.
Soro Solo, donc, qui était sincèrement touché, en fait, que vous ayez pensé à lui, Aline Princet.
Ouais, je suis super touchée par ce qu'il dit, parce que le vieux père, hein, comme on l'appelle, c'était très important, son avis. Et ça a été une des premières personnalités que j'ai contactées, parce que, pour moi, il représente, dans son émission, hein, l'Afrique enchantée, c'était effectivement dans cette démarche-là que je voulais aller. Et si lui me disait oui, pour moi c'était tapis rouge après.
Et vous avez un beau tapis rouge et de belles personnalités qui le foulent, ce tapis rouge.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Y en a qui disent comme ça, Africa botankango eh, et twenkango eh. Hara manga tanden kombe Africa, gapunda kombe no gebelo rema. Y en a qui disent comme ça, le soleil est roi de la couleur, de la gaieté, de l'unité. La couleur de l'Afrique de ma chanson,
la couleur de l'Afrique de ma chanson, c'est l'amour.
Et moi, j'aime l'Afrique de ma chanson. Ma chanson n'a pas de frontières, l'Afrique est sans frontières, du côté de l'amour. Manga fanga ningo redingo, eh, la nivelo baningo. Mais la couleur de l'eau, c'est l'or bleu, bleu de la mer ou bleu du ciel après la pluie. La couleur de l'Afrique de ma chanson,
la couleur de l'Afrique de ma chanson, c'est l'amour.
Et moi, j'aime l'Afrique de ma chanson. Ma chanson n'a pas de frontières, l'Afrique est sans frontières, du côté de l'amour.
La couleur de l'Afrique de ma chanson, Pierre Claver à Kendengue sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde avec deux Africaines de cœur et d'âme, la chef cuisinière Anto Cocagne et la photographe Aline Princet, auteurs toutes les deux de Goût d'Afrique, goût au pluriel évidemment, publié chez Mango. L'amour et le partage, ce sont les couleurs de votre livre aussi. Il disait, hein, l'amour et le partage, c'est la couleur de son Afrique.
Exactement.
Anto Cocagne, Aline Princet, moi j'aimerais bien savoir quel goût à votre Afrique.
Ben, mon Afrique a un goût de joie, un goût de fête. Et d'ailleurs, quand Aline m'a dit le livre va s'appeler Goût d'Afrique, j'ai bien aimé le jeu de mots, parce qu'à chaque fois que je dis Goût d'Afrique, les gens pensent à good
en anglais.
Et je dis non, c'est pas good, mais c'est, enfin, moi, quand je pense à l'Afrique, voilà, je pense à toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, les odeurs. Et c'est ce que je garde en souvenir. Et quand je vois la couverture même, les couleurs qui ont été mises en avant, les tissus qui ont été utilisés pour faire le stylisme culinaire et tout ça, pour moi, c'est vraiment ça, l'Afrique. Ça fait vraiment écho quand je vois tout ouais. ça.
C'est gai, c'est dynamique, très très dynamique et énergique.
Oui,
bah,
l'image du wax avec ses couleurs chatoyantes et la marque Hollande Textile, Sona International a eu la gentillesse de nous laisser les droits.
D'accord, pour pouvoir les reproduire.
Voilà. Et oui, c'est ça, à l'image du wax, il y a une grande modernité en fait dans tous ces tissus de wax qui sont utilisés maintenant un peu partout, hein, dans la déco, dans la mode.
Et vous vous échappez là?
Oui, pardon.
Votre goût de l'Afrique à vous. Parce que je connais la technique. Quel goût a votre Afrique?
Un goût fort, un goût puissant. Enfin, je sais quoi, c'est pas anodin, c'est jamais fade quand on va manger africain.
C'est vrai, on sait qu'on est là.
Ah oui, c'est une Afrique qui a du goût.
Ah, exactement.
Oui. Et ce goût, oui, fort, hein, qui m'a bien impacté.
La première fois, par exemple, la première fois que vous avez mangé un plat africain ou votre première découverte de ce goût d'Afrique?
Mais c'est surtout que la première fois que j'ai mangé un plat africain, mais en Afrique. C'est jamais pareil quand on mange ici et quand on le mange en Afrique. Après, les produits varient. Et je rebondis sur ce qu'a dit Anto. Good Afrique, oui, c'est important, en fait, ce jeu de mots. Good, pour le côté, effectivement, positif. Et c'était à l'image des repas que j'ai pu partager, très joyeux, très positifs, avec des Africains qui sont avant tout des épicuriens, quoi. Enfin, moi, j'étais entourée, en tout cas, d'Africains épicuriens. Hein. C'est bon vivant, quoi, et qui aime manger, qui aime...
Oui, qui aime partager, et voilà. Qui partage même souvent avec des personnes qui ne connaissent pas. Et il y a vraiment ce côté de rassemblement, de moments un peu sacrés.
De convivialité, d'être
exactement,
ensemble.
Exactement, convivial, on est ensemble, et on rit, on boit, on mange, on ne pense pas aux problèmes, à demain, on vit le moment présent.
Et on prend le temps de cuisiner et on vit le moment présent une fois que c'est fait.
Oui.
Ben, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Il y a souvent des stéréotypes dont l'Afrique a du mal à se séparer, où on est dans des trucs très très figés, alors que l'impression que donne le livre, qu'on donne dès qu'on parle et dès qu'on mange des plats africain, on sent bien qu'au contraire, on est dans l'opposé de quelque chose de figé.
Bien sûr, déjà en tant que cuisinier, enfin, n'importe quelle cuisinière ne cuisine jamais de la même façon parce que ça dépend de son humeur, de ce qu'elle veut faire aujourd'hui, de ce dont elle a à disposition au marché. Donc déjà, la recette, elle ne peut pas être figée. Ensuite, il y a l'endroit où on cuisine, les personnes qu'on va accueillir. On ne cuisine pas toujours de la même façon quand on sait que c'est... Que, par exemple, tout à l'heure, Soro Solo disait la recette pour des notables. Donc, quand il y a des personnes importantes qui arrivent, c'est pas pareil notre façon de cuisiner que lorsque c'est juste les personnes de la famille. Quand il y a un invité qui arrive, lorsqu'on sait que c'est quelqu'un qui, attention, mange pas le piment, donc on fait encore attention. Donc nos recettes varient et je pense qu'on peut même encore plus les faire varier. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé aussi des créations, pour montrer qu'on peut encore aller plus loin que les petits changements quotidiens qu'on peut apporter à une recette classique.
À partir du moment où on s'est approprié un petit peu les différents ingrédients, après, c'est d'ailleurs l'une des personnes que vous avez interviewée, Capitaine Alexandre, qui a écrit un beau poème sur l'Afrique d'ailleurs. Je vous propose de l'écouter d'abord.
J'ai l'Afrique dans les veines, l'Afrique dans les gènes. C'est une histoire d'ADN et tant pis si ça gêne. J'ai l'Afrique au cœur, je la porte en moi, partout où je vais, où je vibre. Dans mes sourires et mes larmes, dans ma voix qui silence et mes mots qui la chantent. Afrique, ô mon Afrique.
Sayouba Traoré, vous aurez reconnu sa voix pour ce poème de Capitaine Alexandre. Alors si je parlais de Capitaine Alexandre, c'est parce qu'il dit que c'est un peu la cuisine, un peu comme écrire. Alors je vais même le citer, si je peux me permettre.
Oui.
L'attente, les ingrédients, c'est très important. Et c'est Daniela Ferrière, l'auteur haïtien, qui lui a fait remarquer que faire la cuisine qu'écrire avait en commun ce sens de l'attente et l'intuition également. On a tous les ingrédients pour écrire un roman, les personnages d'histoire. Il faut tout mettre ensemble dans une marmite, porter à ébullition et sortir le tout de la marmite seulement quand le repas est à point. Et là seulement, on sert son histoire. Les deux, il y a beaucoup la musique, l'écriture, on est tout dans le partage et le fait d'être ensemble. Soro Solo aussi, qu'on a entendu au début, parlait du fait de manger avec les doigts et manger avec les mains et à quel point ça participait du goût d'Afrique et de son appartenance. Anto, je crois que c'est important. On entend souvent ça, cette importance de manger avec les mains.
Oui, mais j'en parle dans le livre parce que pour d'autres cultures, ça peut choquer de manger avec les mains. Mais nous, il y a vraiment ce contact qu'on a avec la nourriture. Et c'est pas pareil. Je veux dire, quand vous léchez les doigts, il y a quelque chose qui se passe, en fait, que lorsqu'on mange avec des couverts. Alors, ce que j'aime, c'est quand j'étais à l'école de cuisine, ici à Paris, un jour, on a fait un repas. Le thème, c'était l'Afrique chic et branchée. Et il y avait un plat qu'il fallait manger avec les mains. Donc, les gens, au début, ils étaient un peu offusqués, un peu raides. Et on leur a montré, voilà, on se lave les mains avec du savon, on leur donne de quoi se sécher les mains et ils ont commencé à manger. Alors, il y a certains qui n'y arrivent pas parce que c'est pas habituel, c'est pas commun. Mais au fur et à mesure, ils se détendent et se rendent compte que finalement, ça fait pas sauvage de manger avec les mains. Et,
non, c'est culturel, et, c'est une transition.
Bien sûr, c'est culturel. Et nous, il y a vraiment un côté sacré aussi avec le fait de manger avec les mains, de toucher les aliments, de pouvoir les porter à la bouche. Et puis, il y a certaines mêmes études qui ont montré que le fait de manger avec les mains permet de prendre le temps de mâcher les aliments, de les découper. Donc, nous, on aime ça. Après, c'est aussi ça qu'on voulait partager. Partager la tradition, mais aussi expliquer pourquoi c'est important pour nous de manger avec les mains, de continuer à manger avec les mains.
Soro Solo dit que c'est plus goûtu quand on mange avec les mains.
Bon, après, je pense que ça, c'est psychologique. Hein.
Mais ça, est-ce que c'est aussi le signe d'une appartenance aussi à une culture ? Quand on mange avec ses mains et on va du coup partager son repas, manger avec ses mains, avec des gens de confiance, enfin, on va être bien et on va être chez soi, non ?
Oui, on est détendu. On est détendu, tous les barrières tombent, les codes et tout ça. Enfin, je veux dire, quand on mange avec les mains, il y a vraiment, on est d'égal à égal, on est frères. Et je me rappelle encore de ce voyage au Sénégal où j'ai appris à faire le djibouti avec une famille Peul. Et à la fin, la maman, elle a mis cette grande bassine du tiep au milieu. Tout le monde était autour et on a tous mangé avec les mains. Et voilà, on se met au niveau des autres. Il n'y a pas le chef Anto de son côté avec son assiette et sa cuillère. Et puis les autres qui mangent, là, on était vraiment ensemble.
Même il y a une coutume, je crois, en Éthiopie. Où on donne à manger à l'autre avec ses mains.
Ah, ça, je connaissais pas, mais ça c'est marrant, ça. Ça fait un peu comme quand on partage le gâteau de mariage et qu'on se fait manger une bouchée chacun.
Ah, je ne savais pas. Les personnalités que vous avez rencontrées, comment est-ce qu'ils se livraient au début ? Est-ce que vous avez eu besoin de les rencontrer à plusieurs reprises ? Il y a la chanteuse aussi, Sandra Nkake. Enfin, il y a beaucoup, on va dire une petite dizaine de portraits de personnes.
Huit
que vous avez rencontrées. Oui, oui. Comment ça se passait ? Est-ce qu'ils cuisinaient pour vous ? Comment se sont déroulés vos entretiens ?
Non, ils sont venus. J'ai eu la chance qu'ils viennent à mon studio et j'ai pu les interviewer dans ma cuisine, d'ailleurs, au studio. Et ils se livraient assez facilement parce que chaque personnalité a vraiment sa place dans le sens où ils adorent ça et ils en parlaient assez facilement. Et bon, les questions étaient posées au préalable, donc ils ont eu le temps de préparer un petit peu, mais tout de suite, les souvenirs revenaient. Et un des plus lyriques, en dehors de Soro Solo, qui est un homme de radio, donc c'est vrai qu'on pose une question, il déroule pendant 20 minutes, il n'y a aucun souci. Mais un des plus lyriques, c'était effectivement Capitaine Alexandre, qui sait mettre les mots et il est poète. Donc c'est vrai qu'il décrit de façon très jolie ses souvenirs d'enfance autour de plats.
Capitaine Alexandre, vous avez deux amis dans ce livre.
Pour tout vous dire, j'ai d'abord contacté Capitaine Alexandre, je voulais un homme de lettres. Et l'attaché de presse m'a dit avec grand plaisir. Et d'ailleurs, il vous présente son ami Fred Ebami, que je connaissais pas, mais que j'ai découvert. Et évidemment, oui, un plasticien pop art que j'ai découvert et qui a une super personnalité également et qui, pour l'anecdote, qui avait vraiment sa place puisque quand j'ai fait les portraits, donc chaque portrait est accompagné d'un ingrédient, donc à chaque séance, j'allais faire mes courses à Château Rouge. Et il se trouve qu'un jour, je suis allée faire mes courses à Château Rouge et sur qui je suis tombée nez à nez, sur Fred Ebami qui faisait ses courses aussi. Et donc, il revenait du Cameroun et il voulait se faire un plat en lui rappelant le pays. Et donc, pour le coup, c'est un vrai cuistot. Il a vraiment sa place dans le livre. Quoi.
Alors, chacune des personnes que vous avez rencontrées raconte leur rapport à la cuisine, à leur Madeleine de Proust, donc le plat qui est un peu emblématique pour eux. Généralement, on a beaucoup d'enfants, du coup, d'adultes qui redeviennent des enfants. On a beaucoup de grand-mères et j'étais surprise. Enfin, la grand-mère, la figure de la femme et des tantes, là, c'est plus courant, on va dire, mais il y a aussi des grands-pères.
Oui, Sandra Nkake, c'était son grand-père, oui.
Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu son histoire avec son grand-père ?
Alors, son grand-père, bon, il faisait beaucoup moins la cuisine, mais quand il la faisait, du début jusqu'à la fin. Il fallait qu'ils aillent au marché. Donc, elle se souvient de ces moments-là partagés, puisqu'ils étaient peut-être moins courants. Ils allaient au marché ensemble et elle disait qu'ils passaient des heures avec chaque vendeuse pour choisir les bons produits. Et elle nous donne le plat qu'il préparait, qui l'a particulièrement marqué, parce que c'était à base de verre de palmier. Et donc, effectivement, c'était pas commun. Et donc, elle nous décrit tout ça dans l'interview. Et oui, donc, c'était, pour une fois, c'était un homme.
Du coup, c'est joli d'avoir un grand-père. Vous, c'est votre grand-mère, je crois, à qui d'ailleurs vous rendez hommage dans ce livre.
Oui, c'était ma grand-mère. Je lui ai rendu hommage qu'elle est partie justement en début d'année et que j'ai tout de suite pensé à elle parce que c'est avec elle que j'ai commencé à faire la cuisine, et je la voyais comment elle reprenait mes cousines en disant maintenant là t'as raté, là t'as pas mis assez d'eau, là il faut faire comme si. Et c'est elle qui nous apprenait à, parce que notre cuisine, c'est avant de l'écrire, c'est aussi une cuisine intuitive. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été, j'ai eu du mal moi au départ, notamment quand j'ai commencé avec Afro Cooking, à rédiger des recettes, à mettre des temps de cuisson. Parce que quand j'ai appris à faire cette cuisine-là, c'était à l'œil. C'était l'œil qui mesurait, c'était l'œil qui servait de balance, c'est l'œil qui servait de d'indicateur pour dire c'est assez cuit, c'est pas assez cuit. Et c'est avec elle que j'ai appris à faire ça. Et ce qui est bien, c'est qu'après, en allant à l'école de cuisine, j'ai appris aussi à me servir d'une balance, d'un thermomètre, et puis à compter les minutes pour dire, ben là, à partir de tant de temps. Et dans ce livre, il y a les deux. Et c'est pour ça que j'explique. Parce qu'il faut penser aussi à ceux qui connaissent pas les produits. Donc, on a essayé d'oublier aucune étape pour que quelqu'un, s'il n'a jamais, par exemple, cuisiné une banane plantain, puisse savoir comment l'éplucher, comment
la choisir,
la choisir et tout ça. Oui.
Plus elle est noire, plus elle est mûre.
Oui, exactement. Et à chaque degré de maturité, ben, on fait quelque chose de différent.
Vous avez également dans le livre, alors je voulais vous la faire écouter, Aïssa Ndiaye, qui est mauritanienne d'origine. Ouais. Là, il y a des grands sourires parce qu'elle est styliste, elle a créé la marque Africanista, qui est une ligne qui rend hommage aux anciens, à la culture subsaharienne africaine, qui est très moderne. Là, on dépoussière complètement aussi. Elle irait très bien avec votre livre, et c'est pour ça qu'elle trouve bien sa place dans votre livre. Et elle est bien dans sa cuisine aussi.
Je trouvais intéressant d'aborder les cuisines africaines via certaines personnalités afrodescendantes. Et d'avoir un petit peu notre point de vue sur la cuisine africaine, sur les cuisines africaines, sur les plats qui nous ont bercés en étant enfants et nos coups de cœur culinaires.
Dans votre Africanista, le patrimoine africain, les anciens, c'est très important dans votre travail. Est-ce que la cuisine fait partie aussi de cette résurgence ?
Oui, ça fait partie aussi de notre patrimoine. Déjà à travers nos mamans qui nous ont fait et qui font encore des plats qui sont vraiment de chez nous, en tout cas de nos pays respectifs. Pour ma part, j'ai quelques plats favoris. Je trouve que c'est important parce que voilà, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est beaucoup de plats, c'est beaucoup de manières de cuisiner. Et c'est surtout aborder une autre approche au niveau de la cuisine, une autre manière de faire la cuisine. Et ce qui est important à savoir au niveau des plats africains, c'est la convivialité que ça amène. L'esprit de famille, le partage, la solidarité. Il y a pas mal de valeurs qui entourent les plats africains en général. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce bouquin, c'est que les recettes qu'on y trouve sont abordées de manière ludique. Ça apporte une simplicité à la confection des plats parce que on a toujours tendance à croire que les plats traditionnels africains prennent pas mal de temps au niveau de la préparation, au niveau de la marinade, etc. Il y a quand même un timing qui est indiqué par rapport à la préparation, par rapport à la cuisson des aliments. Et je trouve que la manière dont c'est abordé, bah, c'est une manière simple et ludique de cuisiner des plats africains.
Plus urbaine.
Donc, voilà, plus moderne et beaucoup plus contemporaine surtout. Moi, pour ma partie, j'ai abordé la dakatine puisque c'est le beurre de cacahuète qu'on utilise pas mal dans mon pays d'origine. Et c'est surtout que le village d'où est originaire mes parents, c'est un village peuplé d'agriculteurs. Je viens d'une famille d'agriculteurs. Chez nous, on cultive beaucoup l'arachide. On retrouve pas mal l'arachide dans nos plats traditionnels.
Aïssa Ndiaye est sur RFI dans le Goût du Monde avec la chef Anto Hélène Princey, auteure de Goût d'Afrique. Important d'avoir un petit peu plusieurs personnalités qui représentent vraiment les gens de la diaspora. Ben surtout, qu'est-ce qu'être africain aujourd'hui, jeune
Oui, voilà. Pour moi, c'était intéressant qu'ils viennent de différents horizons, de différents âges. Et ce qui était intéressant, à chaque fois, quand ils parlaient de la cuisine et comment ils l'appréhendaient, c'était un peu comme leur art. Fred et Bami disaient, c'est un peu comme je peins, comme je fais mes tableaux. Capitaine Alexandre, c'est comme j'écris un texte. Il y a différentes méthodes, il y en a qui sont méthodiques et d'autres qui vont être très intuitifs. C'est Edouboro, C'était un peu comme je danse, je cuisine comme je danse, c'est très intuitif. Donc voilà, chaque personne appréhendait la cuisine, qui est un art. Hein. Et moi, je suis très admiratif de tous les artisans.
Mais un art rendu possible grâce à ce livre, Goût d'Afrique. Non, parce qu'il faut le dire, parce que souvent, on est un peu devant un Everest, devant certains plats africains. On se dit comment on va s'en sortir. Oui. Oh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça aura le goût et tout ça? Et là, il y a un peu tout pour qu'on y arrive.
Bien sûr, il y a même des adresses. Où est-ce que vous pouvez vous trouver?
Oui, vous confiez vos adresses.
Dénicher les produits. Il y a quelques restaurants, quelques tables en région parisienne.
Pour découvrir, vous lancer, quoi.
Pour découvrir et tout ça.
Faut y aller.
Oui, faut y aller. Et puis, les photos sont tellement belles que je me suis dit, là, plus personne n'aura peur. Tout le monde pourra se dire, ah ben, je me lance, je vais essayer.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Iye dousou yo, dousou sa valide. Iye dousou se leme sa valide. Iye dousou yo, dousou sa valide. Iye dousou se leme sa valide. Nigera maye maye, ika sa.
De Mamani Keïta sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, un beignet de coquilles à la main, un jus de bissap dans l'autre pendant que notre condré de bœuf mijote. Goût d'Afrique, la déclaration d'amour de la chef Anto et de la photographe Aline Princet à l'Afrique. Goût d'Afrique, un trésor de recettes, d'idées, de goûts, de portraits aussi. On fait la découverte de plein de gens qui nous racontent leur Afrique, le goût de leur Afrique. Et il y a du goût, mais vraiment du goût. On l'a dit au début d'émission, hein, c'est vraiment ce qui distingue. On peut dire, cette cuisine, c'est qu'elle peut être surprenante parce que le goût est totalement assumé, présenté. Hein, on le...
Exactement, on sait quand on est là.
On sait quand on est là.
Bien sûr, on fait du bruit. Et au niveau des cuisines, aussi bien dans les odeurs que dans les saveurs, c'est une cuisine voilà, qui a du caractère.
La jeunesse aujourd'hui, vous qui avez un enfant, vous aussi, Anto, les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'eux aussi la font vivre? Ou cette transmission, elle a encore besoin d'être faite?
Bah après, ça dépend de chaque famille. Moi, je sais que pour mon fils, lui, il aime bien aider. À chaque fois, il dit, maman, est-ce que je peux venir t'aider? Donc, je lui dis, viens. Donc, il vient en cuisine, il regarde comment on fait. Quand on va au marché, je lui montre. Donc, on révise les légumes parce que je veux qu'il les voie bruts avant qu'on puisse les travailler. Et donc, c'est comme ça que, de mon côté, la transmission se fait. Et je pense que si toutes les mamans font pareil, normalement, ils n'auront pas de mal après à continuer de leur côté cette transmission.
Est-ce qu'il a le goût de l'Afrique, votre fils?
Oui, il apprécie, mais après, comme pas mal de jeunes, il aime la junk food aussi.
Oui, c'est vrai.
Il a 13 ans. Mais il y a un truc intéressant, ce que disait Sandra Nkake. Autant ses enfants à la maison, bon, ils appréciaient, etc. Mais c'est sa fille, quand elle a quitté le nid.
Il a fallu quitter le nid, oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Pour que là, elle revendique ses racines africaines et qu'elle fasse du mafé pour recevoir ses potes. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est une fois qu'on n'est plus dedans qu'on se dit, ah, quand même, c'était important d'avoir connu ça et de pouvoir refaire ça.
Le goût de la terre, le goût des racines, il est important.
Oui.
Ce goût-là.
Oui, la cuisine de maman. Et je me reconnais tout à fait dans la fille de Sandra. Parce que quand je suis arrivée en France, il y a 17 ans, j'étais contente. En plus, je suis arrivée, j'étais en région Rhône-Alpes, à Grenoble. Donc, découvrir la cuisine grenobloise, je ne jurais que par ça. Et puis, à un moment, on se sent seul, on se sent vide, on a laissé la famille loin et le seul moyen de se remémorer, c'est au travers des repas. Et en plus, j'étais dans une province où au début, j'avais du mal à trouver des produits. J'ai rencontré un Gabonais par hasard dans le bus. Il m'a dit « Ah, mais il y a une association des Gabonais à Grenoble. » J'ai dit « Ah, mais c'est génial !» Et il me dit « Mais quand on se retrouve souvent, une fois par mois, on fait des repas. » J'ai dit « Mais c'est encore mieux !» Et c'est là où on c'est autour des plats, avec des personnes de la même communauté que nous, qu'on se remémore ce qui se passe au pays, les plats, les chansons. Il y a tout qui remonte en surface. Et c'est à ces moments-là, quand on est loin de la famille, qu'on a envie de refaire ces plats-là et qu'on se rend compte en fait de l'importance qu'ils avaient.
Et de se retrouver chez soi.
Oui.
De temps d'un repas.
Oui, oui. Ce qui fait que quand je rentrais au Gabon, ma mère, des fois, elle voulait me faire des choses un peu sophistiquées. J'ai dit non, je veux manger local.
Alors, c'est quoi le local? Maman, fais-moi quoi?
C'était le poulet à l'odica, c'est faire le pépé soupe, qu'on appelle aussi le bouillon au Gabon. C'est de faire les feuilles de manioc. C'est ça que j'avais envie de manger et rien d'autre.
D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que chacun des portraits est ponctué. La dernière question, c'est est-ce que vous auriez des astuces à partager? Alors, Mamani Keïta partage une astuce pour le sarasara, je crois que c'est pour la cuisson du bouillon. Ensuite, on a des histoires de cuisson, des histoires de plutôt de riz comme ci, de riz comme ça. Donc, il est vraiment pour tout le monde parce qu'on peut tous s'y retrouver.
Bien sûr.
Et son chemin là-dedans. Alors, c'est la tradition chez nous. Un ingrédient, un ustensile. Aline Princey.
Je dirais la banane plantain avec dans la pâte de foufou. Moi, c'est la pâte que je préfère. Hein, et comme je sais qu'elle est pas, c'est une des plus fastidieuses à faire parce qu'il faut le pilon, il faut piler longtemps, etc. Donc le pilon qui va bien avec, voilà.
Ça change le goût ou pas, le pilon?
Oui, en fait, c'est pas le goût, c'est plutôt la texture. Parce qu'il faut que la consistance soit vraiment élastique et qu'il n'y ait pas de grumeaux et lisse. Et il faut pour ça avoir l'huile de coude et bien pilée. Et que la banane soit à la bonne température. Parce que si c'est trop froid, ça ne pile pas bien. Et en fait, il faut qu'elle soit bien chaude et pilée assez rapidement pour avoir cette texture-là.
Vous
et
partagez...
pour l'instant, il n'y a pas de machine qui arrive à le faire aussi bien.
Oui, de cette manière-là, il faut vraiment conserver son pilon, c'est très important.
Exactement.
Tant qu'il y aura du pilon dans les maisons et dans les cuisines, tout ira bien. Anto,
tout à fait.
Votre ingrédient, votre ustensile, peut-être le pilon du coup aussi?
Bah, moi, c'est ce que j'allais dire, mortier pilon, parce que c'est avec ça que j'écrase les épices, les pâtes, faire les pâtes de condiments et tout ça. Et moi, mon ingrédient, celui dont je ne me sépare quasiment jamais, c'est le manioc. Parce que je trouve qu'avec le manioc, on peut faire tellement de choses, que ce soit en tubercule, en farine, en fécule, en semoule. Moi, c'est mon ingrédient préféré.
Ingrédient fétiche. D'ailleurs, il y en a beaucoup des recettes avec du manioc. On se dit, ah bon, il existe aussi de la farine. Et on peut le trouver aussi comme ça, le manioc. Incroyable, incroyable. Donc surtout, régalez-vous. Parce que au fil des recettes et des plats, des entrées, des desserts, en fait, on a un petit peu d'Afrique et on peut franchement s'y essayer. Moi, je vous posterai quelques recettes que j'aurais faites. D'ailleurs, je compte sur vous, chers auditeurs, hein, également. Déjà, je vais dire merci. Merci beaucoup, Aline Princey.
Merci
beaucoup, Anto.
Merci.
Good Afrique, c'est donc publié chez Mango. Il est bon, il est beau, on en est fan. C'est un beau cadeau, très beau cadeau, ça ne fait pas de doute. Et vous qui nous écoutez, donc faites comme moi, peut-être. Moi, en tout cas, je vais me lancer dans quelques chips et autres délicieux plats. Je le ferai et je prendrai en photo. À vous, dites-nous quel est le goût de votre Afrique et quel est le plat qui dit le mieux, en fait, d'où vous venez et qui vous êtes. Sur les réseaux sociaux, je vous redonne notre numéro WhatsApp, 33 6 431 615 66. C'est notre numéro, il est sur la page également du Goût du Monde, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, n'hésitez surtout pas, on aimerait bien pouvoir partager tout ça avec vous, d'autant plus que avec un peu de chance, il y aura peut-être un, voire même deux livres Goût d'Afrique à gagner. Donc c'est le moment de nous envoyer vos photos, vos plats, et puis d'être là chaque semaine au rendez-vous. On vous remercie beaucoup. Merci à Cécile Bonissi qui a réalisé, mis en nom de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous après avoir cuisiné la semaine prochaine, samedi. D'ici là, bonne semaine à tous.
Appelez-nous, exprimez-vous.